Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle
sur Radio Campus Amiens.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Amiens, disponible sur 87.7 FM et sur le DAB+. Bienvenue dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale, culturelle et associative. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les membres de l'association Flash Entre Colors, venus nous présenter la prochaine marche des fiertés qui aura lieu ce samedi 1er juillet 2023. Bonjour à vous.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
On va enchaîner directement. La dernière fois qu'on vous a reçu dans Info Club Sandwich, c'était pour le festival Eau en Couleur. Concrètement, comment ça s'est passé ce festival? Quel est votre retour?
Moi, je pense que ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs propositions autour de différentes formes artistiques qui parlaient à chaque fois de ce que c'est que l'expérience queer. On a eu l'occasion de travailler aussi avec des nouveaux partenaires, entre autres choses, le Ciné Saint-Leu et le Festival International du Film d'Amiens. Et puis, on a eu l'occasion de retravailler une fois avec, retravailler avec Cité Carter, et l'ensemble de l'expérience était top. Et les gens étaient au rendez-vous. Hein.
Ouais, c'était vraiment une expérience très cool. Et puis, comment dire, c'était aussi un nouveau projet quelque part, parce que bon, même si le festival il a 11 ans, on l'a renommé, on a refait une charte graphique. Voilà, le but c'était de relancer un peu l'idée, de reconstruire quelque chose avec des partenaires, davantage de la culture. Il y a beaucoup eu de rendez-vous culturels cette année, donc c'était cool.
Il y a toute une dimension, je trouve, qui est intéressante, qui s'est développée cette année, c'est qu'on est allé beaucoup plus aussi sur des choses mainstream. Enfin, on est beaucoup plus visible, on est beaucoup moins en marge qu'on a pu l'être à une époque.
Donc, je le rappelle, votre association lutte contre les discriminations faites aux personnes LGBTQIA+. Donc, le festival Eau en Couleur fait partie de vos actions. Il y a aussi la marche des fiertés, ce dont on va parler aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que c'est peut-être dans un premier temps la marche des fiertés, quoi? Est-ce qu'on peut revenir rapidement dessus?
Alors, en fait, les marches des fiertés, c'est un devoir de mémoire aussi sur tout ce qui est l'ordre des luttes pour les personnes LGBTQIA+ à travers le monde. Ça commémore les émeutes de Stonewall du 28 juin 1969. C'est la raison pour laquelle beaucoup des marches des fiertés se passent le mois de juin. Et accessoirement, c'est aussi un outil d'interpellation des pouvoirs publics et des politiciens sur la réalité qui est que les personnes LGBTQIA+ sont toujours et encore traitées de façon distincte du reste de la population.
Alors là, t'as commencé un peu à faire un petit point historique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé lors de ces fameuses manifestations? Parce que voilà, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cet événement.
Ouais, carrément. Alors, je vais vous faire revenir un petit peu en arrière dans les années 1969 et les années qui ont précédé. Vous êtes une personne LGBT, vous êtes très largement rejetée, vous avez certains bars qui sont susceptibles de vous accepter, vous avez des obligations vestimentaires pour correspondre aussi au genre qui vous est assigné à la naissance, vous n'avez pas le droit d'être trop proche de votre partenaire ou de personnes qui pourraient vous plaire parce que sinon ça peut être mal vu et ça pourrait être considéré comme de l'indécence et vous pourriez être embarqué par la police. Il y a des fois des personnes qui vont se soustraire ou même aller à l'encontre de ces choses-là, mais souvent il y a la répression policière qui s'enchaîne directement. Et on arrive donc le 28 juin 1969 au Stonewall Inn, qui est un bar relativement sombre, pas hyper agréable, mais où les gens peuvent être libres. Et vous avez une nouvelle descente de police. Et en fait, à ce moment-là, les personnes vont résister. Et c'est pas, ils vont résister un peu. Ils vont résister suffisamment longtemps, en fait, pour que la chose dure plusieurs jours. Ce qui fait que c'est un point tournant où la communauté LGBT a réussi à tenir tête au pouvoir public pour exiger, en fait, de protéger un espace safe pour eux. Et ce constat, il va découler dans les deux semaines qui suivent cet incident à la réflexion de « il faudrait peut-être monter un mouvement aussi pour défendre nos droits fondamentaux ». Et c'est comme ça que s'est monté en fait le Front de Libération homosexuel.
Donc en fait, un acte fondateur finalement du mouvement, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Il y a quelques années, ça s'appelait encore la Gay Pride. Aujourd'hui, c'est la Marche des Fiertés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on n'appelle plus la Gay Pride finalement? Voilà, juste faire un petit point là-dessus, nous expliquer rapidement pourquoi.
Alors, ça a eu beaucoup de noms, en fait. La première, d'ailleurs, c'était la marche de Christopher Street, parce que c'était là où était le Stonewall Inn. Et la raison pour laquelle nous, on parle de Pride ou de Marche des Fiertés et pas de Gay Pride, c'est que quand on parle de gay, on parle de sexualité, alors que ces marches sont là aussi pour des personnes trans, pour des, enfin voilà, il y a une réalité beaucoup plus vaste dans la communauté LGBTQIA+ que juste l'orientation sexuelle. Et en plus de ça, gay, c'est souvent une orientation sexuelle à l'égard d'un seul genre. Donc enfin voilà, c'est, il faut ouvrir les esprits, et ça passe aussi par des outils de langage.
Voilà, et c'est ce qu'on comprend aussi dans votre démarche associative, finalement, ça sert aussi à ça, c'est à donner des outils de langage, à donner du lexique, finalement. Donc là, on a parlé un petit peu d'histoire, on a parlé aussi un petit peu de vos actions, pardon, de ce que vous faites. Concrètement, c'est quoi le programme de cette journée, de ce samedi 1er juillet ?
Alors le programme, simplement, donc la marche l'an dernier, elle a été agrémentée d'un village associatif. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très cool parce que ça permet aux gens de rencontrer les associations, alors du territoire à Amiens et même très largement, parce qu'on a des associations qui se déplacent depuis Montpellier quand même pour venir sur la marche. Et donc du coup le programme cette année, on garde la même chose, on part sur un village associatif qui va ouvrir à 10h30, 11h. Et ensuite on aura des prises de parole des associations, voilà, pour... comment dire, pour rappeler un petit peu les combats qui sont menés par chacune, et puis pour donner un petit peu le mot d'ordre de la journée. Ensuite, donc la déambulation qui part directement. Donc cette année, on a un petit peu modifié l'itinéraire, parce qu'on avait envie que la déambulation dure un peu plus longtemps, et donc on a pris presque tout le quartier Saint-Leu, en tout cas on passe sur l'axe principal, sur le boulevard principal. Et donc du coup après, retour sur le village associatif, sur la place Léon Contier de la Maison de la Culture. Et se suivra ensuite une soirée de clôture au Red and White, qui est un de nos partenaires aussi cette année sur l'événement, de 18h à 2h du matin, voire plus.
Alors, tu nous parles de village associatif avec des assos présentes. Est-ce que tu pourrais nous présenter, peut-être, je ne sais pas combien d'assos il y aura, mais peut-être nous en présenter quelques-unes, voire toutes les assos concrètement. Voilà, qui seront présents, quelles assos seront présentes, pardon, sur l'événement.
Alors, sur l'événement, on va retrouver plusieurs pôles d'associations. Et des syndicats également. On va retrouver des associations LGBT, donc par exemple nous ou Fier et Queer qui viennent de Saint-Quentin. On va retrouver aussi donc des syndicats comme la CGT, la CFDT, l'UNEF, le FSU, Solidaire 80. Et on va retrouver aussi donc du coup un pôle plus féministe avec notamment les associations Nous Toutes 80 et le Planning Familial. Et cette année, on a aussi un pôle santé avec ENIPS et le MAI. Donc, qui proposeront du dépistage pour les hépatites et le VIH directement sur le village associatif.
Ok, et peut-être question bête, pourquoi du coup la CGT, pourquoi des organisations de travail finalement sur l'événement ?
Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que en tant qu'association LGBT, on a deux rôles. On a le rôle d'accompagner les personnes victimes de discrimination, mais on a aussi le rôle d'informer quels sont les autres appuis qui existent. Et la réalité, c'est que tout ce qui est l'ordre de la discrimination du travail, en fait, les syndicats, ils ont aussi beaucoup d'outils sur ces choses-là. Et que c'est justement important de créer des espaces comme ce village associatif pour que les personnes qui viennent pour revendiquer leurs droits aient aussi une opportunité et un temps pour rencontrer les différents acteurs et actrices du territoire qui sont susceptibles de les soutenir justement pour défendre leurs droits.
Il y a une réalité qui est tout autre, c'est que la CGT et la CFDT, ça a toujours été de grands appuis pour organiser les marches des fiertés partout en France. Alors spécialement à Amiens, c'est vrai qu'ils nous aident énormément sur l'aspect logistique, etc. Nous, on n'aurait pas de grands objectifs ou de grande rentabilité à investir sur des barnums, ce genre de choses, parce qu'on n'organise pas d'événements comme ça tous les mois. Mais eux, ils ont du matériel, ils ont des ressources, et puis ils ont été de très bons conseils sur plein de choses.
Et c'est aussi la dimension de la solidarité, c'est-à-dire que entre organismes qui luttent pour les droits des gens, en fait, c'est bien aussi de faire preuve de solidarité, ce qu'on fait la CFDT, la CGT et un certain nombre d'autres syndicats.
Puis je le rappelle, on en parlait tout à l'heure en off, c'est vrai qu'a priori vous organisez tout seul, c'est-à-dire que là vous vous débrouillez pour organiser l'événement sur vos moyens, logistiques, financiers, humains finalement, donc j'imagine que oui, c'est normal, vous avez aussi besoin d'aide extérieure logistique. Je parlais tout à l'heure d'un mot d'ordre de cette journée. C'est quoi le mot d'ordre cette année ?
Oh, le mot d'ordre, y en a plein cette année. Je pense que... Alors, une actualité qui est principale et qui est majeure, c'est les 10 ans du mariage pour tous et toutes qui a eu lieu. Et c'est de garder un peu l'idée que, certes, il y a eu une victoire il y a 10 ans, ça fait déjà longtemps, et c'est une victoire parmi tant d'autres, mais en fait... Il y a aussi une lutte qui doit continuer et qui doit aller en direction aussi parfois d'autres publics. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se rend compte que la lutte des associations LGBTQIA+, elle se dirige aussi beaucoup vers le genre et les thématiques de genre. Je pense aux personnes transgenres qui sont beaucoup marginalisées, les personnes intersexuées, parce qu'en fait, c'est comment dire, ces personnes vivent une discrimination au quotidien qui n'est même pas basée sur leur orientation sexuelle, leur attirance. Elle est directement basée sur qui ils sont, qui elles sont. Et donc, c'est important de mentionner ça. Et c'est important de mentionner aussi que même si on a une victoire et si plein d'associations mettent des messages d'espoir, etc., il y a une réalité qui est tout autre quand même pour certains publics.
Il y a une réalité aussi, c'est que c'est un constat qui a pu être fait dès le début des marges de fierté, c'est-à-dire que les personnes LGBT étaient solidaires parce qu'elles étaient toutes marginalisées, et au fur et à mesure en fait, des avancées des droits, eh ben, on a vu que pour certaines populations, il y avait des privilèges qui émergeaient, et d'autres qui étaient mises de côté parce qu'elles étaient des personnes trans ou alors des populations non blanches. Et il nous semble important aussi de garder ça en tête, parce que on a dans notre association des personnes du continent africain, on a des personnes transidentitaires, et on essaye de garder en mémoire aussi le fait que le combat continue par rapport au mariage pour tous, aussi à l'égard d'organismes comme la Manif pour tous qui vont à l'encontre en fait de l'obtention de droits, mais aussi nous en tant que communauté LGBT, enfin en tant que personne LGBT, il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a encore beaucoup d'autres discriminations qui existent, et il faut aussi savoir des fois laisser la place à des personnes qui ont besoin de parler.
Justement, dans le communiqué de presse que vous m'avez envoyé, vous écrivez que des luttes avancent et d'autres régressent. Concrètement, est-ce que vous avez des exemples de luttes qui régresseraient ou de choses qui se passeraient encore très graves et qui n'ont pas évolué ou pire, qui sont pires finalement?
Ben, on peut voir par exemple, si on jette un regard à l'international, on peut voir que la Pologne défend des espaces sans personnes LGBT, que la Tchétchénie a enfermé les personnes LGBT. On voit aussi que sur le continent africain, certains politiciens instrumentalisent les personnes LGBT pour dire que c'est de la propagande du monde occidental, pour dissimuler aussi le fait que des difficultés sociétales sont liées directement à leur politique. Et c'est toutes ces réalités-là où des choses avancent, d'autres reculent, même au niveau des populations. Comme on le disait, les combats LGBT sont multiples, et il y en a qui avancent, il y en a qui régressent.
Et même, même au niveau national, et même sur le territoire, on voit aussi qu'il y a des problématiques énormes et des choses qui, à mon sens, passent, mais on devrait même pas les voir. On voit l'extrême droite qui monte un nouveau groupe pour lutter contre le wokisme. On voit, par exemple, le lycée à Compiègne, où il y a eu des interventions scolaires, où il était censé y avoir des interventions scolaires sur des thématiques d'éducation sexuelle, de lutte contre la discrimination, et où on a appris récemment que le proviseur avait démissionné. Et il avait eu des propos insultants, homophobes, anti-IVG, et donc il y a beaucoup de choses qu'on tolère, et il y a peu de moyens concrets qui sont mis en place pour vraiment agir.
On comprend que c'est une lutte permanente, presque perpétuelle, et justement c'est aussi quelque chose d'assez vaste, d'assez complexe, enfin qu'il y a plein de sujets abordés, donc j'imagine que c'est des choses qu'on va pouvoir découvrir, apprendre aussi en se rendant à votre événement. À qui il est destiné finalement cet événement ?
Tout le monde. C'est-à-dire qu'il est aussi bien pour des personnes concernées qui ont besoin d'être écoutées, mais qui ont peut-être aussi besoin d'informations sur des combats qui les touchent peut-être pas directement, parce qu'encore une fois, la communauté LGBT, c'est quelque chose de très vaste. Mais en fait, c'est aussi pour des personnes non concernées, parce que la réalité, c'est qu'on est sur un mouvement qui est politique et social, et des personnes marginalisées, des minorités d'un point de vue général, ont aussi besoin du soutien d'une population plus large pour que les choses avancent. Il faut en fait qu'on avance en tant que société. C'est pas une partie de la population qui avance, c'est ensemble.
Je pense qu'on va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir pris la parole sur la marche des fiertés. Donc je rappelle, hein, Timothée, Louis, vous faites partie de l'association Flash Hors Trou Color, donc qui lutte contre les discriminations faites aux personnes LGBTQIA+. Donc cette marche aura lieu ce samedi 1er juillet 2023. Je rappelle que vous êtes aussi bénévole à Radio Campus. Est-ce que là vous pourriez peut-être nous donner le sujet de la prochaine émission qui sera diffusée ?
La prochaine émission portera sur les marches des fiertés.
Ok, super, merci. À la prochaine. Beaucoup.